Dieu est notre roi et il est notre créateur. Notre créateur est aussi notre roi. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est le royaume de la création. Je m'appuie essentiellement sur ce passage que nous avons étudié tous dans les groupes de maison. Pour ceux qui ne connaissent pas les groupes de maison, c'est ce texte que nous trouvons. Première page de la Bible, Genèse chapitre 1, les versets 1 à 5. Vous parlez du royaume de la création. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Et je vais ajouter Genèse 1, les versets 26, 27, 28. Voilà ce mandat que Dieu a donné à l'homme. Genèse chapitre 1. Verset 1 à 5. Disons donc, au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la terre soit et la lumière, alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Je disais que le thème de mon message, c'est le royaume de la création. Vous avez compris, en tout cas pour ceux qui fréquentent les groupe de maison, il s'agit d'apporter un plus par rapport à ce que nous avons partagé dans les groupes de maison. Je sais que nous vivons des moments enrichissants, des moments merveilleux dans la présence du Seigneur, en tout cas autour de sa parole. Alors, la lecture de ce texte de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5, en tout cas nous permet de constater une chose. En tout cas, il est un fait souvent qui passe un peu inaperçu lorsque nous commençons à lire la Bible à partir du récit de la création. C'est que le premier homme, en tout cas le premier être humain, Adam, n'a pas été un enfant. Adam n'a pas été un enfant. Il en est de même d'ailleurs pour la première femme, en tout cas Ève. Les deux n'ont jamais été des enfants, les deux sont sortis évidemment de la main de leur créateur, de la main de Dieu en adulte accompli. Alors, vous voyez, cela a effectivement son équivalent dans la Nouvelle Alliance. Cela a son équivalent dans le Nouveau Testament. À travers l'œuvre de la croix, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous recevons la nouvelle naissance, nous sortons aussi entre les mains du Seigneur en adulte accompli. Lorsque nous naissons la nouvelle naissance, en adulte accompli, effectivement, c'est notre esprit qui est créé ou recréé nouveau et tout à fait accompli, notre esprit. Il n'est donc pas question pour notre esprit de processus d'évolution afin de devenir plus tard adulte. Non. Adulte, et ensuite, le travail de la suite, c'est la ressemblance à Christ. Mais notre esprit est créé, vous voyez, la nouvelle naissance ne change pas mon poids, ne change pas ma taille, ne change pas ma corpulence, mais la nouvelle naissance, c'est de l'ordre de l'esprit. Dieu m'apporte un esprit nouveau, un esprit adulte, évidemment capable de comprendre sa parole. Et le travail à faire, justement, c'est de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu à partir de cet esprit nouveau, adulte, accompli. Cela signifie, frères et sœurs, qu'Adam et Ève ne sont pas le résultat d'un mécanisme, on dirait, aveugle et inexplicable, mécanisme qui pouvait s'étaler, qui pouvait s'échelonner sur plusieurs millénaires. Mécanisme jaillit, je ne sais pas, de nulle part, et n'aboutissant, bien entendu, à nulle part, Parler de mécanisme d'évolution, vous l'avez compris, mais n'a aucun, je dirais, aucun sens, aucun appui dans les Écritures. Et d'ailleurs, il ne reste qu'une hypothèse. Une hypothèse, bon, je dirais, dépourvue de sens, dans la mesure où il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Le récit biblique de la création et la théorie de l'évolution, c'est de ça qu'il s'agit, sans... en tout cas incompatibles. Et les deux, d'ailleurs, s'excluent mutuellement, Le livre de la Genèse, frères et sœurs, révèle qu'une intelligence suprême a présidé à la formation, à la création de l'univers. En tout cas, un être suprême tient les commandes de la création. Et les lois de cet être suprême soutiennent sa création. D'ailleurs, je vous renvoie à la lecture du psaume 139, vous l'avez lu il y a quelques dimanches, le verset 6 dit, c'est le roi David qui s'émerveille, mais il dit, mais qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, trop élevée. Adam et Ève, je disais, ensuite, ont été créés adultes afin de recevoir, immédiatement. D'ailleurs, comme le montrent les premiers chapitres de la Genèse, de recevoir immédiatement la domination sur tout ce que Dieu avait créé. Mais s'ils étaient créés bébés, comment allaient-ils ? Non. Afin qu'ils reçoivent directement, immédiatement, la domination. Autrement dit, après les avoir créés, Dieu les a aussitôt établis comme des rois de la terre. Des rois, oui, en leur accordant pouvoir et autorité sur tout. Mais je dis bien sur tout, car la fonction d'un roi, mais c'est de régner, nous le savons tous, la fonction d'un roi, c'est de régner. Et par notre nouvelle naissance, je disais tout à l'heure, mais Dieu aussi nous établit comme des rois. Pour régner, c'est 1 Pierre qui le dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui nous dit que nous sommes une race élue. Il dit un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et Apocalypse chapitre 1, verset 6 ajoute que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Un roi, je disais, est établi pour régner. Le but de la prêtrise, de la sacrificature, est de mettre des hommes en relation directe, mais directe, sans intermédiaire, avec Dieu. Cet office, le prêtre, est donné, est fondé, pardon, sur l'œuvre, justement, de Christ et l'opération de l'Esprit de Dieu, sans quoi il ne saurait y avoir de relation entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et personne, justement, ne serait régénéré sans cette œuvre, pas de nouvelle naissance. Il est exercé par des hommes. La sacrificature, le fait d'être prêtre, ce sont les hommes. Vous voyez que les anges ne sont pas des sacrificateurs. Les anges ne sont pas des sacrificateurs. Ils indiquent, en tout cas cet office, une mise à part. Une mise à part selon le choix de Dieu. Nul ne peut s'accorder cet honneur d'être sacrificateur, d'être prêtre, mais c'est seulement s'il est appelé de Dieu. C'est Hébreux chapitre 5, verset 4 qui le dit. Donc, si nous sommes ici ce matin, bien aimés dans le Seigneur, mais c'est parce que Dieu a fait de nous des rois, des prêtres, des sacrificateurs. Car la relation à la fois fondamentale et suprême que la sacrificature assure, c'est ce que nous avons fait. C'est notre adoration, c'est ce que nous faisons. Notre adoration, ce qui nous rend capable de rendre un culte à Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 3. Dans la Bible, frères et sœurs, vous voyez que Dieu, en tout cas, ne cesse de proclamer sa royauté. Dieu est roi et son peuple de croyants le célèbre constamment pour sa domination. Pour sa domination sur le fait qu'il domine. Psaume 93, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 40, verset 3. Voilà le fait qui commande tous les autres. Bien-aimés, les premiers chapitres de la Genèse, vous voyez, ne se limite pas au seul récit de la création. Les premiers chapitres de la Genèse nous parlent aussi de l'établissement d'un royaume de Dieu, un royaume dans lequel Dieu règne sur ses sujets, aussi bien que sur la création tout entière. En même temps qu'il crée, et en même temps, il établit un royaume sur lequel il règne. La terre, frères et sœurs, à la suite de la création, était déjà, vous voyez, devenue un royaume dans lequel toute chose, mais je dis bien toute chose, était soumise à l'homme. Oui, à l'homme. Alors que l'homme lui-même était soumis à qui ? À Dieu. À Dieu en toute chose. Donc, tout se trouve bien sous le contrôle souverain de Dieu. Écoutons ce que dit le psaume 147, versets 15 à 18. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Frères et sœurs, ces versets sont des paroles prononcées dans un grand émerveillement. Et souvenons-nous que les disciples aussi pouvaient s'émerveiller. En tout cas, en s'interrogeant, mais vraiment dans un grand émerveillement, quel est celui-ci ? À qui obéissent même les vents et la mer. Une fois que Jésus a parlé, a donné l'ordre au vent de se calmer, à la tempête, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ? Matthieu chapitre 8, verset 27. Frères et sœurs, de façon générale, nous disons il pleut ou il neige, mais les Hébreux s'exprimaient autrement. Les Hébreux s'exprimaient autrement, pour eux, ils disaient en tout cas, il fait pleuvoir, il fait neiger. Oui, il fait neiger, il fait souffler les vents. Ils étaient conscients, mais vraiment très conscients de la seigneurie de Dieu sur la terre, sur sa création, sur la nature. La domination souveraine de Dieu s'étend aussi bien sur les anges que sur les hommes, rien, mais alors rien n'y échappe. Sur la base du témoignage de toute l'Écriture, il est clair que ce règne est celui du Dieu trinitaire. C'est le Dieu trinitaire qui règne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de sorte que les trois personnes de la divinité partagent la même souveraineté dans la création et dans le gouvernement de l'univers. D'ailleurs, c'est ce que souligne fortement l'usage du pronom personnel pluriel en Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons. Cela suppose évidemment qu'il y a eu un conseil divin s'est tenu, voilà, avant la création de l'homme. Mais il faut aussi le signifier que ces paroles ne révèlent pas toute la signification de la Trinité. On ne parle pas de l'Esprit. Faisons donc. Ces paroles ne révèlent pas toute la vérité de la Trinité, car, à proprement parler, en tout cas, il n'est question que d'un pluriel potentiel. Il n'est question que d'un pluriel potentiel ou d'un pluriel virtuel. Pourquoi je le dis? Alors peut-être que là aussi vous n'avez jamais fait attention à ça, un peu comme Adam et Ève créés adultes, mais remarquez que le mot esprit au verset 2, je suis dans Genèse 1, le mot esprit est écrit avec un petit e, avec un e minuscule, c'est pas un grand e. Avec un petit peu. Alors que dans toute la Bible, lorsqu'il s'agit de parler du Saint-Esprit, le mot esprit est toujours écrit avec un grand E, avec un E majuscule. Alors pourquoi ici l'esprit est-il écrit avec un petit E? L'esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Pourquoi? Au-dessus des eaux, pardon. Pourquoi? Mais c'est pour signifier ici que l'esprit qui se mouvait ne fait pas directement allusion au Saint-Esprit, ne fait pas explicitement, mais de façon implicite, de façon indirecte, oui, mais ne fait pas directement allusion au Saint-Esprit que nous allons recevoir après à la Pentecôte, non. En tout cas, esprit en hébreu, souvenons-nous, veut dire roi. Roi, c'est ce qui signifie souffle, souffle, mais aussi esprit roi signifie conscience, mais signifie aussi intelligence, tout ça. Donc, c'est l'intelligence de Dieu qui était là présente et qui se mouvait à travers cette image de l'esprit. L'intelligence de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et donc, prête à intervenir afin de tout mettre en ordre. On nous a dit qu'il y avait un tohu-bohu, la terre était informe et vide. Et donc, devant ce vide, devant cette informité et ce vide, l'intelligence de Dieu était là, prête à agencer les choses et à tout remettre en ordre. L'intelligence de Dieu est dans le souffle. Autrement dit, l'intelligence de Dieu est dans le vent. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un a une idée nouvelle, oui, on dit qu'il est inspiré. Il est inspiré. Et l'inspiration est un mouvement aussi respiratoire. L'inspiration est aussi un mouvement respiratoire. Bon, entre guillemets, expirer, c'est plutôt mourir. Expire, on a dit à expirer. Mais l'inspiration est un mouvement respiratoire. Quand j'inspire, c'est que je prends de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, l'inspiration est un ensemble d'idées. L'inspiration, qui est un ensemble d'idées, est aussi un mouvement respiratoire. Inspiration, ensemble d'idées, mais aussi mouvement respiratoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous respirons, en fait, nous prenons l'intelligence de Dieu. À chaque fois que nous respirons, voilà pourquoi tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, t'arrêter de réfléchir. C'est pas possible. Même quand tu te mets au repos, tu dis je suis en congé, je pense à rien, mais souviens-toi que ton esprit est toujours en train de réfléchir. Il y a toujours des idées nouvelles qui te passent à la tête. Il ne s'arrête pas de réfléchir parce que justement tu respires. Et c'est de cette façon que le Saint-Esprit opère en nous ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus. Et pour un disciple, en réalité, chaque jour doit nous apporter un plus, comme on a dit dans le fait de grandir en Christ, dans la ressemblance de Christ. Mais c'est parce que nous respirons chaque jour que l'Esprit, nous en avons besoin pour grandir chaque jour. Et c'est un processus, c'est un processus. Lors de la création, le premier acte divin était, nous dit ce passage, de faire apparaître la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. De faire apparaître la lumière pour préparer justement à l'homme un domaine, un lieu pour y habiter. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au verset 4, alors là je suis dans l'évangile de Jean, ce qu'on appelle le proverbe de Jean, Jean chapitre 1, au verset 4, qui parle aussi du commencement, au commencement, ainsi de suite. On voit à partir de ce verset 4 que la vie et la lumière sont liées. La vie et la lumière sont liées à tel point que l'on peut traduire cette phrase en inversant les termes. Il est dit que la vie était la lumière des hommes. Mais on peut aussi dire que la lumière des hommes était la vie. Or, la lumière, c'est qui ? Mais la lumière, c'est Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Lumière et vie. Et il est aussi dit de Jésus qu'il est la vie. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, le premier acte de Dieu pour préparer à l'homme, justement, la place pour y habiter, a consisté à faire apparaître Jésus. À faire apparaître Jésus qui est la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Le premier acte a consisté à faire apparaître Jésus qui est la lumière. Ce n'est pas pour dire que Jésus n'existait pas. Non, il existe de toute éternité, évidemment. Mais c'est pour mettre officiellement Jésus, la lumière, à la disposition des hommes. À la disposition des hommes. Une manière de dire que sans Jésus, l'homme ne peut pas réellement vivre. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Du point de vue de Dieu. Que signifie maintenant le fait que l'homme ait été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu? Le fait que nous avons été créés à l'image ou selon la ressemblance de Dieu signifie tout simplement, frères et sœurs, que nous sommes créés pour lui ressembler. Voilà notre entreprise, nous sommes créés pour lui ressembler. Adam, en fait, ne ressemblait pas à Dieu. Adam ne ressemblait pas à Dieu. Il ne ressemblait pas à Dieu dans le sens où Dieu ne serait ni de chair ni de sang. Non, Dieu est esprit. Dieu est esprit, nous dit Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il n'a donc pas un corps. Toutefois, le corps d'Adam, son corps reflétait évidemment la vie de Dieu lorsqu'il a été créé en parfaite santé et n'était pas soumis à la maladie et à la mort. L'image de Dieu fait donc référence, vous voyez, à l'aspect spirituel de l'homme qui le distingue du règne animal. Et c'est ça qui rend l'homme digne de la domination que Dieu lui a confiée sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Et lui permet d'être en communion avec son Créateur. Il s'agit de ressemblance, d'une ressemblance spirituelle et qui a finalement un incident, un impact sur tout ce qui est mental, moral, vie sociale, etc., etc. Le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu implique aussi qu'Adam avait le libre arbitre. Quoique créé avec une nature juste, Adam a fait le mauvais choix de se rébeller contre son Créateur. Ce faisant, il a corrompu l'image de Dieu en lui et a transmis cette ressemblance brisée à nous tous, en tout cas à tous ses enfants, nous y compris d'après Romains, chapitre 5, verset 12. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous portons encore l'image de Dieu selon Jacques, chapitre 3, verset 9, mais nous portons aussi la marque du péché. Nous subissons les conséquences du péché sur le plan intellectuel, moral, social, physique. Cependant, la bonne nouvelle est que quand Dieu rachète quelqu'un, il commence à restaurer l'image originelle de Dieu en lui. La Bible dit « créant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité ». Éphésiens chapitre 4, verset 24. En Christ, frères et sœurs, nous sommes une nouvelle création. Selon la ressemblance de Dieu, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses, mais vraiment toutes choses sont devenues nouvelles. N'oublions jamais que la marque de la nouvelle création, en tout cas, la nouvelle création de Dieu est l'excellence. Oui, Christ est excellent. Et l'homme nouveau est créé selon le modèle de l'excellence. Donc, en Christ, bien-aimés, nous sommes tout simplement excellents. Oui, il faut voir les choses du point de vue de Christ, pas de notre point de vue. Du point de vue de l'œuvre que Christ a accomplie, il est donc important, frères et sœurs, et même vital, d'apercevoir le royaume et le règne de Dieu dans les deux premiers chapitres de la création. Si nous ne percevons pas ce royaume et ce règne, nous aurions du mal à saisir, à comprendre la portée ou la signification des événements qui vont se poursuivre, notamment les événements du chapitre 3, par exemple. Un chapitre, chapitre 3, fondamental pour l'histoire de l'humanité et aussi pour la doctrine biblique. Vous voyez, Jésus a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, ce royaume avait déjà existé, ce royaume était bien quelque part, et ensuite il est venu vers nous. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu est tout simplement la gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est là que Dieu règne. Et donc, c'est là où il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa gloire. Elle représente la puissance et la magnificence de Dieu. Oui, frères et sœurs, au commencement, tous les êtres intelligents créés par Dieu, à savoir les anges, ensuite les hommes, se soumettaient volontairement à son autorité, à l'autorité du roi. Il n'y avait pas de moindre trace de déloyauté dans le royaume de Dieu. Sur la terre, Adam et Ève, nous le savons, jouissaient non seulement de la révélation générale de Dieu dans la création, mais aussi également de la révélation spéciale. Mais Dieu leur parlait face à face, alors qu'il leur faisait connaître aussi sa volonté et il leur indiquait leurs occupations, ce qu'ils devaient faire et leurs fonctions, ce qu'ils allaient faire sur la terre, comment entretenir la terre. En tant que porteur de l'image de Dieu, l'homme était soumis, je disais, à son roi créateur. Cette obéissance totale lui accordait dignité et liberté. L'obéissance à Dieu, frères et sœurs, s'accompagne toujours de vie et de bonheur, alors que la désobéissance entraîne toujours la misère et la mort. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait en communion avec Dieu et en harmonie avec son environnement. Dieu avait confié à l'homme l'honneur et la responsabilité d'être son représentant. L'honneur et la responsabilité d'être son délégué, son garant vis-à-vis de la création. L'être humain avait reçu la domination sur les poissons, on l'a lu, de la mer. Les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. etc., etc. Genèse 1, 26, l'homme a été chargé de cultiver et de garder, en outre le jardin, Genèse 2, 15. Généralement, le commandement de Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. En tout cas, ce commandement est appelé le mandat culturel. Et c'est ce qu'il est effectivement. Mais avec la dynamique de la venue de Christ sur la terre, il conviendrait de l'appeler le mandat du royaume. Christ vient avec le royaume. Et ce mandat du royaume, Genèse 1, 28, doit être en relation, en rapport avec la grande commission, souvenons-nous, de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus dit, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, en ce sens, le mandat du royaume implique qu'une partie de notre bonne intendance de la terre comprend un effort pour influencer, j'allais dire, la culture et la politique, mais au fond, la société. Mais c'est ça, vers des attitudes qui reflètent quoi ? Et la volonté de Dieu. Par notre vie sur la terre, en réalité, nous sommes là pour amener les autres à comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Et c'est ça le mandat. C'est-à-dire que tout, y compris nos vies personnelles, nos interactions, ainsi de suite, doit être considéré comme faisant partie de notre responsabilité d'accomplir la volonté de Dieu. Cette décision du mandat du royaume reconnaît que la soumission implicite de Genèse 1, 28 est celle de la terre à l'homme, et non de l'homme à l'homme. L'homme n'est pas là pour dominer les autres, non. L'homme, c'est prendre soin, dominer sur la terre, mais montrer aux autres que Dieu règne, que Dieu est un grand roi, au-dessus de tous les rois de la terre. En effet, par ce commandement, Dieu charge l'homme d'occuper une position élevée. C'est une position élevée. En s'acquittant de sa fonction de créature, l'homme jouissait d'une faveur et d'une bénédiction divine particulière. Vous voyez à quel moment la grande intelligence d'Adam, par exemple, oui, la grande intelligence d'Adam, ainsi que sa proximité avec la nature sont manifestées. Mais c'est par l'attribution des noms aux différentes espèces. Créatures vivantes, Genèse chapitre 2, versets 19 à 20, c'est Adam qui nomme, qui donne les noms à tous les animaux. La classification du règne animal n'était pas un fait au hasard, mais un véritable travail scientifique mené par Adam, de sorte qu'au jardin d'Éden, l'homme était guidé et protégé par la loi de Dieu. Alors, il n'était pas autonome. Et ne se déterminait pas tout seul, mais il obéissait à Dieu. Il vivait en harmonie avec Dieu. Il avait reçu l'ordre de ne pas aussi manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet ordre était d'ailleurs formel. Tu ne mangeras pas. La sentence qui frappait la désobéissance était bien la mort. Une limite précise était donc imposée à Adam. Il jouissait de bonnes choses en abondance, et je pourrais même dire en surabondance. Cependant, un seul arbre lui était interdit, et cela effectivement pour son bien. Adam possédait déjà une connaissance théorique, je dis bien une connaissance théorique du bien et du mal. Il connaissait. Il savait qu'il existait l'obéissance et la désobéissance. La vie et la mort. Mais il n'avait aucune connaissance pratique. Il connaissait, mais il n'avait aucune connaissance pratique du mal et de la mort. Pour savoir que le mal existe, il a fallu d'abord qu'il pêche, et ensuite il a fini par réaliser qu'au-delà du mal, il existe aussi la mort. Sans le péché, il n'aurait jamais connu ni expérimenté le mal d'un côté et la mort de l'autre. Voilà pourquoi cette connaissance expérimentale, entraînée par sa désobéissance, était pour lui une malédiction. Vous voyez ? Mais la bonne nouvelle, non pas seulement pour lui, mais la bonne nouvelle aussi pour nous, frères et sœurs, c'est que Christ s'est fait malédiction afin que nous puissions recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses, mais vraiment toutes choses, sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs, ce que la Bible dit à notre sujet est vrai. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce que la Bible dit est vrai. Souvent, nous ne réalisons pas quand Dieu dit que nous avons été créés, recréés, que nous avons connu la nouvelle, que nous sommes de nouvelles créatures. C'est vrai. Et donc, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique de vie. Il ne s'agit pas de notre vie ancienne. Non, une nouvelle dynamique de vie. Notre esprit a été créé nouveau. Et je disais tout à l'heure, on adulte. Et donc, notre travail, je l'ai dit, consiste à travailler chaque jour dans une dynamique de renouvellement de notre intelligence afin de grandir comme nous respirons à la ressemblance de Christ. Tel est notre projet de vie. Ressemblance de Christ. Je disais que la Bible ne nous parle pas de notre destin, mais la Bible nous parle de notre prédestination. Et c'est en cherchant à quoi nous avons été prédestinés, et la Bible dit que nous avons été prédestinés à être l'image de son Fils. Et c'est justement en s'exerçant dans cette dynamique de la recherche de la prédestination, cherchant à devenir semblable à Christ, que nous finirons par comprendre quelle est notre destinée. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.
Amen.
Amen. Amen. En réponse au message, on va chanter un chant. Jésus a mis un chant nouveau.
Ça qu'il n'est pas trop connu, on va en reprendre.